Et reposante. Comment ? Le réveil aussi, il était très bon. Ouais, Cosette, t'es pas très objective là-dessus. C'est Cosette qui vous a réveillé ce matin. Et c'était sympa, franchement. La chanson de Phil Collins, ça m'a rappelé mon année de sixième. Voilà. Ouais, non, c'était en 1937. Aujourd'hui, nous allons étudier Lévitique 23. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de PowerPoint, parce que bah, vous allez voir que l'étude va être très très simple. Elle consistera à regarder les fêtes, à voir en quoi ça consistait, et à voir leur accomplissement en Jésus et à voir l'application. Un truc super original, n'est-ce pas ? Vous commencez à avoir l'habitude, j'imagine. Et aussi, on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne va pas lire le passage d'un seul coup, on va lire fête par fête. Voilà. Donc on va faire des choses exceptionnelles aujourd'hui. Donc, l'année des Hébreux, des Israélites, était rythmée par des fêtes. Donc ils avaient un calendrier très précis. un calendrier précis. Et donc ils devaient régulièrement aller dans la maison du Seigneur pour le fêter. Et voici les différentes fêtes du Seigneur. Lévitique 23. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, voici les fêtes que vous devez célébrer et qui sont mes fêtes. Pour elles, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Fête numéro 1. Durant 6 jours, on fera son travail. Mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée cultuelle et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel, partout où vous habiterez. Première fête, le sabbat. La date, le 7e jour de la semaine. Ça, c'est assez facile. Le sens, vous le connaissez parce que je vous l'ai déjà dit cette semaine. Le sens du sabbat, c'est de marquer l'alliance. Quelqu'un a dit l'alliance, merci beaucoup. Une personne sur 80, c'est pas mal. Et en plus, voilà, je sais qui c'est. Non, c'est Renaud, je pense. Et on a discuté hier soir. Donc, c'est pas... Ouais, donc, c'est pas... Tant pis. Et, l'obligation pendant ce jour de fête, ce jour qui vient toutes les semaines, c'est de se rassembler et d'avoir un culte pour le Seigneur. Et bien sûr, si on veut se rassembler, si on veut avoir le temps de rendre un culte au Seigneur, il faut s'arrêter de travailler. Le sabbat nous dit que l'homme n'a pas été créé pour être esclave du travail. L'homme n'a pas été créé pour être l'esclave du commerce, esclave de l'argent, du profit. Non, l'homme a été créé pour rendre un culte à Dieu, pour être esclave de Dieu, pour servir Dieu. En plus, cela permet de retrouver pendant un jour la communion dont l'humanité jouissait avant la chute. On retrouve cette communion avec Dieu. C'est la fête la plus fréquente, hein, une fois par semaine. Mais il n'y a pas qu'elle. Verset 4. Voici les autres fêtes de l'Éternel, pour lesquelles vous convoquerez le peuple, pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte aux dates fixées. Au soir du 14e jour du premier mois, à la nuit tombante, c'est la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour du mois, c'est la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous consacrerez le premier jour de cette fête à une assemblée cultuelle. Vous ne ferez aucune des tâches de votre travail habituel ce jour-là. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes. Le 7e jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte, et vous ne ferez aucune des tâches de votre travail habituel. Le premier mois. Le 14e jour du premier mois, c'est-à-dire à peu près le 14 avril. Ne te découvre pas d'un fil. On fête donc la Pâque. La Pâque, bon, c'est facile quand même comme fête, hein, la signification de cette fête. Sortie d'Égypte. Vous vous rappelez, hein, lors de l'Exode, Dieu envoie le dernier des fléaux sur l'Égypte pour tuer tous les fils aînés, des hommes et des bêtes. Et il épargne les fils aînés des Hébreux en leur disant « Sacrifiez un agneau à la place. » Et badigeonnez les linteaux de vos portes avec le sang de l'agneau et le fléau ne tuera pas vos premiers-nés, votre fils premier-né. L'obligation pendant la Pâque, qui est là pour fêter ce jour et se souvenir de ce jour, il fallait sacrifier un agneau d'un an sans défaut et il fallait le manger avec des herbes amères et des pains sans levain, à la hâte avec toute la famille. Et donc ça, c'est le 14 avril, hein, la Pâque. Et le 15 avril, le lendemain, il y avait la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain fêtait le départ précipité d'Égypte. Et cette fête des pains sans levain durait beaucoup plus longtemps que la Pâque. Ça durait 7 jours. Il fallait justement manger des pains sans levain. Il fallait ne faire aucun travail pénible pendant les 7 jours. C'est-à-dire que c'était un chômage partiel. C'était pas chômé totalement, mais il fallait faire aucun travail servile, aucun travail pénible. Et il y avait une assemblée cultuelle le premier et le dernier jour. Il y avait des sacrifices aussi. Donc là, c'est 14 et 15 avril. Pourquoi vous me regardez en souriant ? Non, j'ai pas dit une bêtise, d'accord, tout va bien. Non, il faut me dire si je dis une bêtise. Hein. Non, si c'était droit de sourire. J'aime bien ton sourire. Bon. Les jours d'après, le 16 avril, voici ce qui se passe. Enfin, le 16 avril ou quelques jours après, en tout cas, la Pâque et la fête des pains sans levain. Verset 9. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre récolte. Le lendemain du sabbat, il fera devant moi le geste de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. Le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut dans sa première année. Vous y adjoindrez une offrande de 6 kg de farine pétrie à l'huile, qui, consumé par le feu pour l'Éternel, aura une odeur apaisante et une libation d'un litre et demi de vin. Avant ce jour où vous apporterez l'offrande à votre Dieu, vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés ou grains nouveaux. C'est là une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations, partout où vous habiterez. C'est ce qu'on appelle la fête des prémices. Il y avait deux fêtes des prémices. Il y en avait une première pour l'orge. Je ne sais pas si vous êtes habitué aux récoltes à la campagne, mis à part Aude. C'est pas drôle, c'est ses études. On récolte l'orge en premier. Hein, c'est une sorte de blé, mais qui est un peu plus précoce, qu'on sème avant les autres sortes de blé. Du coup, on pouvait récolter l'orge en avril-mai. Donc la première récolte d'orge, on l'a présentée à l'Éternel. Ça, ce sont les premières prémices. Et les obligations juste avant donc de récolter l'orge, cette obligation de présenter la première gerbe, il y avait la dédicace donc de cette première gerbe. Il fallait sacrifier un agneau, et il fallait faire des offrandes végétales, comme nous l'avons lu. Histoire de les consacrer à l'Éternel. Et vous avez vu, il y a une forte image de propitiation là-dedans, parce qu'il y a beaucoup, ce sera agréable pour moi, et consacrer cette gerbe pour obtenir ma faveur. Propitiation. Fête suivante. Verset 15. Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du repos où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos. Et, ouais, faut compter après, hein. Faut faire des croix sur le calendrier, mais je vais vous expliquer. Et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des lieux où vous habiterez, deux pains pour faire le geste de présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleurs de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Avec le pain, vous offrirez aussi 7 agneaux sans défaut, dans leur première année, un jeune taureau et deux béliers qui me seront offerts en holocauste, accompagnés de leur offrande et de leur libation. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et deux agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le prêtre fera avec le pain des premières récoltes le geste de présentation devant l'Éternel. Ils me seront consacrés avec les deux agneaux et reviendront au prêtre en ce même jour. En ce même jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations, dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous moissonnerez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'au bord et vous ne glanerez pas ce qui pourra rester dans votre moisson. Vous laisserez cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel votre Dieu. Le verset 22, on l'a déjà vu hier dans le chapitre 19, si vous vous rappelez bien. Mais si vous vous rappelez pas, il faut consulter. La semaine de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est bien sûr 50 jours. Après Pâques, après les prémices, en l'occurrence. Pentecôte, hein, ça veut dire, il y a le mot 50 dans Pentecôte. 50 jours, donc c'est au mois de juin là, on est au mois de juin. Donc c'est bientôt les vacances, tout ça. Toujours la première gerbe, la première récolte tardive. Et là, donc là, on parle de la récolte du blé. Car le blé se récolte après l'orge. Donc c'est la deuxième vague de la récolte. Qu'est-ce qui se passe pendant cette fête de la Pentecôte? Il y a un rassemblement cultuel. Il y a un jour chômé. Il n'y a pas que les champs qui sont chômés. Il y a aussi le travail. Il y a la dédicace de deux pains. Holocauste de 7 agneaux. Un taureau, deux béliers, plus une offrande. Une offrande végétale. Et une libation. Mais également un bouc, deux agneaux en sacrifice de paix. Et aussi l'obligation de laisser du grain pour que les personnes pauvres glanent. Donc vous voyez que là, les sacrifices sont supérieurs. Parce que là, vraiment, c'est le gros de la moisson, vous voyez. Donc là, il fallait marquer quelque chose, il fallait marquer vraiment sa gratitude envers l'Éternel. Ensuite, verset 23. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le premier jour du septième mois sera pour vous un grand jour de repos, pour vous rappeler à mon souvenir, de sonneries de trompettes avec un rassemblement cultuel. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est ce qu'on appelle la fête des trompettes. Et là, nous avons passé les grandes vacances, hein, tout le monde est allé sur la Côte d'Azur, tout ça, et nous sommes au mois d'octobre. Au mois d'octobre, oui. C'est le septième mois. Et il compte pas pareil que nous, hein, bien sûr. Puisque le premier mois, vous rappelez, c'est avril. Hein, donc voilà. Et octobre, il n'y a rien qui rime avec octobre, je pense. Enfin bref. Avril ne te découvre pas d'un fil. Octobre, comment ? Attention à l'opprobre. Marion, son métier, c'est d'écrire des chansons. Voilà, quand il faut que ça rime, elle trouve toujours des mots. Donc, 1er octobre, fête des trompettes. Et vous allez voir qu'en octobre, c'est aussi chargé. Donc, il y a deux mois principaux, c'est avril et octobre. Octobre, ça commence par le jour des trompettes. C'est un peu obscur. On appelle ça le jour du souvenir. Aujourd'hui, c'est le jour du nouvel an juif, Rosh Hashanah. Ça correspond à cette fête des trompettes. Comme tu es grand. Qu'est-ce qui se passe pendant ce jour-là? Les trompettes sonnent pour rappeler l'Alliance. Israël doit obéir à la loi et faire confiance à Dieu, et Dieu, lui, doit bénir son peuple. Donc c'est un peu une fête, on pense que c'est une fête qui est censée rappeler l'Alliance. Et pendant cette fête, il y a beaucoup d'offrandes qui sont faites. Pour le coup, ça rime. Ensuite, nous allons passer au 10 octobre, verset 26. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Le dixième jour de ce septième mois est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée cultuelle. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, destiné à faire l'expiation pour vous devant moi, l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humilie pas en ce jour-là sera exclue de son peuple. Ce qui est quand même trash. Et j'en ferai moi-même disparaître celui qui fera un jour quelconque, un travail quelconque ce jour-là. Vous ne ferez aucune sorte de travail. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité. Pour toutes les générations, dans tous les lieux où vous habiterez, ce sera pour vous un grand jour de repos au cours duquel vous vous humilierez. Dès le soir du neuvième jour du mois jusqu'au lendemain soir, vous observerez ce repos. Vous observez peut-être et vous remarquez peut-être que là, les ordres sont encore plus pressants. On dirait que Dieu veut dire ce jour-là, c'est pas n'importe quel jour. Et vous vous rappelez ce jour, c'est le jour de Lévitique 16, le grand pardon, le Yom Kippour, le jour des expiations. Nous sommes le 10 octobre. Son sens, c'est justement le pardon et la réconciliation avec Dieu. C'est un jour absolument unique parce que c'est le seul jour où Aaron, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, paraît devant Dieu. Il entre dans le Saint des Saints après avoir immolé un taureau pour lui-même et avoir immolé deux boucs pour le peuple. Enfin, un bouc et l'autre qui va à Azazel. Et donc vraiment, c'est le jour où vraiment c'est le pardon général de la part de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est très très important. C'est pour ça que je pense que ce chapitre 23 insiste beaucoup sur le fait que à ce moment-là, il ne faut pas être au champ. À ce moment-là, il faut rendre un culte à Dieu. C'est une question de distribution du temps, voyez-vous. Donc, il faut jeûner, il faut s'humilier, hein, jeûner. C'est la seule fête là où il faut jeûner, on dirait. On ne mange pas, on jeûne, en signe de deuil, en signe d'humiliation. Et on offre un taureau et deux boucs. Fête des tabernacles, verset 33. Cinq jours après, le 15 octobre. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour de ce septième mois aura lieu la fête des cabanes ou la fête des tentes. On la célébrera durant sept jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une assemblée cultuelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez encore une assemblée cultuelle et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête cultuelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Telles sont les fêtes à célébrer en l'honneur de l'Éternel et pour lesquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Il m'offrira à moi, l'Éternel, des sacrifices consumés par le feu, les holocaustes et les offrandes, les sacrifices et les libations requis pour chaque jour. Ils viendront s'ajouter à ceux que vous m'offrirez lors de mes sabbats, à vos dons, aux sacrifices offerts pour accomplir un vœu ou volontairement. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté tous les produits de vos terres, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel et... je continue. En l'honneur de l'Éternel, où est-ce que je suis ? Pendant sept jours, le premier et le huitième jour seront des jours de repos. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits de vos arbres, des branches de palmiers, des rameaux, d'arbres touffus et de saules, des rivières. Pendant sept jours, vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel votre Dieu. Vous célébrerez cette fête en l'honneur de l'Éternel sept jours par an. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Vous la célébrerez le septième mois. Vous habiterez pendant sept jours dans des cabanes. Tous ceux qui sont nés en Israël logeront dans des cabanes. Pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. Et la conclusion, c'est ainsi que Moïse transmit aux Israélites les instructions concernant les fêtes de l'Éternel. La fête des cabanes, 15 octobre, c'est, on fête pendant cette fête des cabanes, la fin de toutes les moissons. On fête aussi le début de la saison des pluies. Les premières pluies vont arriver. Et en plus de ça, on rappelle les 40 ans dans le désert. Et pendant ce jour, puisque c'est la fête de la fin de toutes les moissons, c'est aussi la fête du sacrifice. Et là, ça chauffe dans les marmites. Pendant 7 jours, j'ai fait le calcul, il y a 71 taureaux, 49 kilos de farine, 15 béliers, 45 kilos aussi de farine en plus, parce qu'à chaque fois la farine s'ajoute au sacrifice, 105 agneaux, 22,5 kilos de farine plus 8 boucs. Pas mal. Ça fait de la boucherie. Plus, donc ça c'est voilà, toutes les offrandes, tous les sacrifices, bah pour pas mal, hein, parce que pour tout Israël en fait. Donc en fait c'est normal vu le nombre de personnes qu'il y a. Mais du coup voilà, les sacrificateurs ne devaient pas s'ennuyer. Il fallait faire beaucoup d'enfants, je pense. Et en plus, pour pouvoir gérer tous les sacrifices, hein, pour avoir le maximum de sacrificateurs, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Je ne sais même pas ce que vous avez compris, pour être tout à fait honnête. En plus de ces sacrifices, il fallait passer 7 jours dans des cabanes pour rappeler les 40 ans dans le désert. Voilà l'observation très basique, hein, mais c'est juste pour vous forcer à le lire, parce que peut-être que vous avez tendance à passer ce genre de choses. L'observation des fêtes de l'Éternel. Pendant ces fêtes, on fête la grâce de Dieu. Pendant ces fêtes, on fête la générosité de Dieu. C'est la joie, c'est l'engagement, c'est la consécration envers Dieu qui est fêtée. Tout doit rappeler ce que l'Éternel a fait et ce que l'Éternel fera. C'est pour ça qu'on fête la moisson. On fête la moisson, on fête les prémices, les débuts, et on fête la fin. Pour que l'année suivante, on refasse pareil, et que l'Éternel bénisse toujours la terre qu'il a donnée à ses enfants. Mais il faut voir qu'il y a toujours un rapport entre les fêtes de la récolte et les épisodes de la rédemption spécifique d'Israël. Parce que les fêtes de récolte, tous les peuples le faisaient, à leur Dieu. Parce que c'est normal, puisque les dieux sont là pour bénir, et que les récoltes, ça permet de manger. Il vaut mieux rendre propices les dieux pour qu'on ait une bonne récolte. Donc tous les peuples, en fait, faisaient des sacrifices à leurs dieux à ce moment-là. Et certains pensent que en alliant ces fêtes de récolte avec les fêtes de rédemption, ça rappelait aux Israélites qu'ils n'étaient pas comme les autres peuples. Comme les autres peuples, ils voulaient rendre Dieu propice pour que Dieu les bénisse, mais qu'eux, ils avaient le seul et unique vrai Dieu. Et qu'il fallait que, quand ils cultivent cette terre promise que Dieu leur avait donnée, ils se rappellent de ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte. Donc ça permet de fêter les deux. Autre interprétation qui n'a rien à voir, je pense que ce qu'on peut voir dans ce passage, c'est que le temps appartient à Dieu. Vous avez vu à quel point Dieu insiste sur le fait que vous ne ferez aucun travail ce jour-là. Vous irez devant mon tabernacle ou devant mon temple quand il sera construit. Parce que ces jours me sont réservés. C'est réservé à la communion avec moi. C'est réservé au sacrifice. Le temps lui appartient. Dieu a donné aux Israélites, enfin va donner à l'époque de Lévitique, va donner aux Israélites une terre. Et donc la terre va lui appartenir. Et il va donner cette terre en gestion aux Israélites. On va le voir demain. Mais le temps aussi lui appartient. Il n'appartient pas aux Israélites. Et comme vous pouvez le voir, les jours de repos ne sont pas de tout repos. Je pense que, voilà, le samedi matin, jour du sabbat, c'était pas fait pour regarder téléfoot à l'époque. Ou pour glander sur le canapé. ou aller en forêt, faire une petite balade en famille. C'était pour s'humilier, c'était pour rendre un culte à l'Éternel. Les cantiques des montées, vous vous rappelez, dans les psaumes, psaume 120 à psaume 134, il y a des cantiques qui justement racontent, enfin qui sont faits pour être chantés quand on va au pèlerinage à Jérusalem, quand on va fêter ces fêtes à Jérusalem, quand on va fêter la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles à Jérusalem. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est pour aller dans la maison du Seigneur, pour apporter ses sacrifices. Maranatha, après, là on saute au niveau du Nouveau Testament. Hein. Mais les cantiques des montées sont là pour ça. Ça c'est la signification à l'époque. Mais là encore, vous vous doutez bien que je vous ai réservé une petite surprise au niveau de la signification de ces fêtes sous la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que deviennent ces fêtes avec Jésus ? Le sabbat, la première de ces fêtes. Bon, le sens de l'ancienne alliance, donc, on fête l'alliance, un jour consacré pour un peuple consacré. Mais voilà-t-il pas que Jésus, dans Marc 2, 27, dit que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Certains pharisiens, certains israélites bien intentionnés, vraiment avait voulu blinder de règles ce jour du sabbat pour que personne ne puisse être accusé par Dieu d'avoir travaillé et pour ne pas retourner encore en exil, hein, parce qu'ils en avaient un petit peu marre d'être en exil, d'être allés en exil. Du coup, ils ont voulu blinder ce jour du sabbat, donc on avait le droit de rien faire, presque. Et Jésus leur dit, non, mais vous n'avez pas tout compris. Le sabbat est fait pour rendre service à l'homme. L'homme ne doit pas être esclave du sabbat. Le sabbat, c'est un service pour l'homme. C'est pas quelque chose d'aliénant. C'est un jour de joie, un jour de communion, un jour de fête. C'est pas un jour, en fait, on reste chez soi en disant « j'ai le droit de rien faire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me faire taper dessus ?» Non, c'est pas ça. C'est un jour de fête, un jour de joie. Dans Matthieu 12, verset 8, Jésus dit aussi qu'il est le maître du sabbat. Celui qui décide... C'est Jésus. Il est le maître du sabbat. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sabbat, hein, je ne vais pas tout dire, parce que c'est énorme. Mais aussi, il faut dire que comme il n'y a plus de distinction entre le sacré et le profane, comme je l'ai dit il y a deux jours, c'est 7 jours sur 7 que le chrétien rend un culte à Dieu. Il n'y a pas un jour de culte particulier. Si, mais... On profite du dimanche quand même. Ensuite, pour la Pâque. Donc la Pâque, c'est la sortie d'Égypte, la mort de l'agneau. Dans Jean 6. Donc je vais traiter la Pâque et les pains sans levain à la fois. Hein. Donc la sortie d'Égypte et le départ précipité d'Égypte. Dans Jean 6. Jésus multiplie des pains lors de la Pâque, juste avant la fête des pains sans levain. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il est le vrai pain, comme par hasard. Aussi, pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que Jésus, c'est l'agneau pascal. C'est l'agneau pascal, à la différence près que, alors que Dieu avait épargné les premiers-nés des Israélites, Dieu n'hésite pas à sacrifier son premier-né pour sauver son peuple. Il y a aussi une allusion qui est faite par Paul dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 7. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été crucifié. Paul utilise à fond hein, l'image de la Pâque hein, et des pains sans levain. Et donc il fait référence à cette fête. Au niveau de la fête des prémices la première gerbe, celle de l'orge. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Voici ce que nous dit Paul. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous sont rendus vivants dans le Christ. Mais chacun en son rang. Le Christ comme prémisse, puis à son avènement, ceux qui appartiennent au Christ. Ça, c'est un truc assez intéressant pour nous, parce que Paul nous dit que Jésus est les prémices de ceux qui sont ressuscités. Donc les prémices, première gerbe. Et qu'est-ce qu'il y a après la première gerbe, les premières prémices? 50 jours, il y a la Pentecôte. Voilà, hein, la fête des prémices, c'est juste après la Pâque. Hein, donc Jésus se fait crucifier à la Pâque. Il ressuscite à peu près aux alentours de la fête des prémices, de la nouvelle récolte. Et donc il est les prémices de ceux qui sont ressuscités. Et 50 jours après la fête des prémices, il y a quoi? Il y a la Pentecôte. Où il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont ressuscités avec Christ, spirituellement parlant. Du coup, leur vie est cachée en Christ, auprès de Dieu. Pour reprendre Colossiens 3. La fête des trompettes, on a du mal à voir l'analogie. Certains y voient l'annonce du retour de Jésus et le fait de se tenir sur ses gardes en attendant l'avènement du Seigneur. Et en fait, ils prennent pour base 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Peut-être un peu capillotracté, on ne sait pas trop quelle analogie on peut trouver de cette fête des trompettes. Le jour des expiations, on l'a vu l'autre fois avec Hébreux 9, donc je ne reviens pas dessus. Peut-être lire peut-être 2 Corinthiens 5, verset 18. « Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. » Fête des tabernacles. Fête des tabernacles pendant la période post-exilique. Post-exilique, vous savez, les Israélites sont partis en exil à Babylone, ils sont revenus. Et cette fête des tabernacles a continué d'être fêtée. Hein. Et cette fête a très vite été associée à la fête de l'eau. Et c'est pour cela que Jésus, pendant cette fête des tabernacles, a déclaré dans Jean 7 être l'eau vive. Quand Jésus dit « Je suis l'eau vive » pendant la fête des tabernacles, tout le monde comprend, c'est la fête de l'eau. Donc vraiment, bon, c'est vraiment pas tout ce qu'il y a comme référence à ces fêtes dans le Nouveau Testament, mais parce que leur tourne, il faut nous dépêcher. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'avait dit Freddy hier, parce que bah, ça recoupe un peu ce que nous dit Lévitique 23. Parce que la question, à mon avis, que pose Lévitique 23, c'est qu'est-ce que vous faites de votre temps? C'est la question du temps qui est abordée ici. Notre temps appartient au Seigneur. Notre temps doit être consacré à glorifier le Seigneur, à lui rendre gloire. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Déjà, alors commençons par le plus facile, hein, je veux dire le temps officiel de repos. Souvent, on se dit bon, ouais, bah alors le temps, voilà. Donc on a un week-end, nous en plus on a sabbat plus un, donc on a deux jours nous de repos. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces jours de repos? Vous remarquerez hein, dans Lévitique 23 et même d'ailleurs dans toute la Bible, le repos, on parle pas vraiment de repos. Genre, j'en profite pour faire des grasses mat, je vais me reposer, je vais aller en vacances. Ça, non, c'est pas forcément ça. Ça peut être à la rigueur passer des moments en famille et tout ça, mais c'est toujours en rapport un peu avec le culte à l'Éternel. Alors que nous, jour de repos, on pense à jour de glande. On pense à rien faire. On se dit, oh là là, j'ai travaillé tellement cette année, cette semaine, j'ai travaillé 35 heures. C'est vraiment horrible, je suis complètement crevé. Je ne sais pas si vous savez un peu comment les agriculteurs travaillaient à l'époque. Hein. Les journées étaient quand même super longues et ils n'étaient pas du tout assis quand ils travaillaient. Oh, je suis fatigué intellectuellement. Oh là là, j'arrive plus à réfléchir. Mmh. On est un petit peu des tapettes quand même maintenant au XXIe siècle. Hein. C'est bien ce que je me dis. Eux, on leur disait, voilà, quand vous arrêtez de travailler, vous rendez un culte à l'Éternel. Nous, alors donc, peut-être que quand on s'arrête de travailler, enfin, en gros, Dieu va pas nous dire, bon, arrêtez de travailler pour arrêter de faire du profit, parce que peut-être qu'on n'est pas si attaché que ça à l'argent, mais en tout cas, on est vachement attaché à nos loisirs. Et c'est peut-être ça, en fait, la nouvelle idole. Peut-être que l'idole, la tentation idolâtre d'Israélites, c'était l'argent, le profit, en faire un maximum pour avoir un maximum d'argent. Peut-être. C'est pour ça qu'il leur demande de chômer ces jours-là. Mais nous, peut-être que l'idole, ce sont les loisirs. Nous pensons à nous en premier quand nous avons un jour de repos. Quand vous avez un jour de repos, quand vous êtes en vacances, est-ce que vous lisez plus la Bible? Est-ce que vous priez plus? C'est une vraie question, hein? C'est une vraie question dans la gestion de notre temps. Sinon, on n'a rien compris. Parce que le repos a été donné par Dieu pour lui rendre gloire. Pas pour se faire plaisir. Je pense qu'on se fait plaisir en lui rendant gloire, en l'occurrence. Et je pense justement que les deux sont liés. Une assemblée cultuelle qui dure une journée, ça ne devrait pas nous faire peur, finalement. Parce qu'on est avec des gens bien, des frères et sœurs. On mange ensemble, on passe des moments en famille ensemble. C'est cool, on est avec le Seigneur pendant toute la journée. Ça ne devrait pas nous faire peur. Mais le moindre petit culte qui dure plus d'une heure et demie, on commence à dire « Oh là là, c'était long !» Ça pose un petit problème quand même dans notre gestion du temps. C'était la première baffe, mais vous avez encore une joue. Et j'en ai une deuxième à vous distribuer. Qui va vous concerner tout particulièrement? Il y a des personnes, il y a des personnes étudiantes engagées au GBU, qui vont dire « Bon, je ne vise personne, je tiens à vous dire tout ce que je connais, je ne vous vise pas. » Voilà, hein, je ne vise absolument personne. Qui disent « Oh, l'année prochaine, Johan, je sais pas si je pourrais m'engager, parce que tu comprends, j'avais vachement de boulot, c'est la dernière année, où je passe des concours, tu comprends, je vais en prépa, et je sais pas, tu vois, j'ai plus de temps, alors franchement, réserver 2 heures pour le GBU, je pourrais pas. Mm-hmm. » Mm-hmm. Voilà, Lévitique 23 nous dit un truc. Parce que bon, j'imagine que les agriculteurs pouvaient dire « Ah, oh, tu sais, Dieu, je pourrais pas venir parce que j'ai encore un champ à battre et puis bah, vraiment, enfin, il faut que je rentre la récolte, tu comprends, les pluies vont bientôt arriver, je peux vraiment pas venir, Dieu. Si de, bon, see you. » Comment ? Voilà, prier dans le tracteur. Sauf qu'ils n'avaient pas de tracteur à l'époque, enfin bon. Mais comme ça, voilà. Sauf que vous avez remarqué que Dieu leur dit pas, vous rendrez un culte sur votre lieu de travail. Non, il dit, vous arrêterez votre travail et vous arrêterez de vous consacrer à vos activités économiques et vous consacrerez entièrement à moi. Vous irez ailleurs. Est-ce que c'est si difficile de consacrer, allez, 2 heures, 3 heures, 4 heures dans sa semaine au lieu de mettre son nez dans les bouquins et se faire croire qu'on est plus efficace en révisant? C'est une vraie question. J'ai mon collègue Paul qui, quand on lui dit « je peux pas venir au GBU parce que demain j'ai un examen, voilà, donc je peux pas venir au GBU », est-ce qu'il répond parfois aux personnes qui lui disent ça et lui dit « bah alors tu veux rater ton examen ?» Donc, je pense que si vous voulez réussir vos études, venez au GBU. Vraiment, au niveau de notre investissement de temps, on se gourre complètement. On fait toujours comme d'habitude, on fait comme si Dieu n'existait pas. On fait comme si on pouvait pas lui faire confiance. Ah voilà, vous comprenez, hein, faut vraiment... En fait, et implicitement, en fait, bon, peut-être que quand on dit, on y croit vraiment, hein, qu'il faut qu'on consacre le plus de temps possible à nos révisions pour qu'on réussisse, mais on sait très bien que dans les faits, même quand on va pas au GBU, on passe quand même du temps à glander. Et qu'on passe vachement de temps aussi à être devant le bouquin, à se faire croire qu'on révise, mais on pense complètement à autre chose. On dort. On le sait très bien, ça. Donc pourquoi est-ce que ce temps-là que vous perdez, de toute façon, vous n'êtes pas au GBU, vous n'allez pas à l'église. Consacrez-vous au Seigneur en premier. C'est lui qui décide si vous allez réussir vos études ou non. J'ai plein d'histoires hein, de Jébusiens qui, bon, ils n'en ont pas vraiment fait exprès au départ, hein, mais ils étaient obligés parce qu'ils s'étaient engagés pour certains événements de Jébus et ils s'étaient engagés à être là. Et bon, ils avaient un examen le lendemain, ils étaient complètement à la bourre, ils n'avaient presque pas révisé. Et, mais comme par hasard, le lendemain, ça s'est très 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 bien passé. Genre, ils sont tombés exactement sur le seul sujet qu'ils avaient révisé. C'est un truc comme ça, voilà. Alors, ça veut pas dire qu'il faut utiliser le Seigneur comme un oreiller de paresse pour dire « Oh bah, tu comprends Seigneur, je glande rien toute l'année, mais c'est parce que je suis engagé pour le GBU. » Si vous faites ça, autant vous engager dans le GBU, et puis bon, vous voyez David, vous dites « Oh David, j'aimerais bien être laid, voilà. » Enfin non, il faut voir Paul pour ça, ou je m'engage comme sire, tout ça, venez, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, si c'est de bonne foi, et si vous ne pouvez pas faire autrement, des fois au GBU, bah, je pense que Dieu existe, d'une part, et qu'il est assez puissant pour faire en sorte de retourner les situations, même quand vous semblez dépassé. Le temps appartient au Seigneur, il ne vous appartient pas à vous. Engagez-vous au GBU et vous réussirez vos études. C'est un slogan que nous allons bientôt... J'aime beaucoup ce slogan. Pour conclure, vraiment, je veux vous dire de continuer à être consacré à Dieu. Je ne sais pas, je pense que vous appréciez cette semaine. Vous avez apprécié ce camp qui commence à toucher à sa fin. Mais il ne faut pas le dire. Hein, mais vous avez apprécié ce camp et vous savez pourquoi vous l'avez apprécié ? Parce que 24 heures sur 24, à peu près. Enfin, pour certains, c'est presque 24 heures sur 24. On a parlé de la Bible. On a parlé de Dieu. On a parlé à nos frères et sœurs, on a prié ensemble. Et là, c'est comme si on était sur une autre planète. On s'est fait un bien énorme, on a envie de tout déchirer quand on reviendra. Et vous inquiétez pas, ça va pas durer. Mais voilà, vous avez goûté à quel point c'est bon de consacrer un maximum de temps pour le Seigneur. Vous avez goûté à ça. Alors, ce serait quand même... faire preuve d'une débilité profonde, de ne pas continuer à faire ça pendant l'année. Et franchement, je me mets vraiment dans l'eau, hein. Je suis vraiment un pauvre abruti. Hein. C'est que voilà, pendant l'année, par exemple, je pense que quand je reviendrai ici, c'est-à-dire dès mardi, parce que nous, ça dure un peu plus longtemps, je vais peut-être me relâcher en me disant « J'ai bossé pendant au moins 10 jours, là !» Allez, je vais aller sur un certain site et puis je vais me regarder toute une saison de 24 ou voilà. Ouais, non, en fait, j'ai vu toutes les saisons de 24. Donc, ça marchait pas, mais je vais voir une saison d'autre chose et je vais me relâcher comme un abruti, comme si en fait je pouvais m'accorder un temps de repos sans Dieu comme ça, voilà. Comme si le temps m'appartenait, comme si j'avais fait en fait ce qu'il fallait, comme ça pour être tranquille un petit peu. Je suis pas sûr qu'en fait Dieu nous accorde des jours de tranquillité. Je pense qu'il faut se reposer, hein. Je pense qu'il faut se reposer. Je pense qu'il faut. D'ailleurs, je pense que dans les jours des Israélites, c'est quelque chose qui était assez circulaire où il y avait plusieurs veilles dans la nuit. Les Israélites se couchaient plutôt tôt. Déjà se coucher tôt, c'est une bonne chose pour avoir déjà une nuit réparatrice et se reposer. Car souvent, en fait, nous veillons pour faire n'importe quoi, pour regarder n'importe quoi, pour lire n'importe quoi. Donc déjà, ils utilisaient sûrement mieux leur temps. Et moi, je pense qu'il faut que nous utilisions notre temps vraiment comme il faut pour être à la fois reposé et à la fois glorifier le Seigneur. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous violons le principal des commandements qui est de ne pas être idolâtre. Alors, ne soyez pas idolâtre et passez votre temps à glorifier le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a été désigné pour prier ? Pas cette fois-ci. Qui a envie de prier ? Fédo ! Merci.